Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, chers confrères, chers ordinants, et bien chers frères, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on considère quelle est la pensée de la Sainte Église sur le sacerdoce, que ce soit dans l'Écriture sainte, spécialement dans Saint Paul, ou dans la tradition qui est comme condensée dans le pontifical romain, on constate combien c'est vrai que Monseigneur Lefebvre, notre saint fondateur, Monseigneur Lefebvre, a été le serviteur fidelis et prudens, fidèle et prudent. Et on pourrait bien ajouter fort, vaillant, qui n'a fait autre chose que nous transmettre avec fidélité ce qu'il avait reçu de la Sainte Église, c'est-à-dire le vrai sacerdoce catholique, le vrai sacerdoce catholique. Et cela est vrai à tel point que pour nous, il suffit de vivre ce qu'il nous a transmis, vivre ce que nous avons reçu. Et plus précisément, vivre ce que nous sommes. La sainteté sacerdotale, c'est tout simplement de vivre ce que nous sommes. Et je voudrais donc vous parler de cet enseignement que nous avons reçu, de ces sacerdoces, évidemment non d'une façon exhaustive, mais dans ces éléments essentiels, ce qui me semble, ces éléments essentiels. Et tout d'abord, le prêtre, le sacerdoce, est ordonné au sacrifice, au saint sacrifice de la messe. Le prêtre, il est avant tout l'homme du culte de Dieu, l'homme consacré et établi, afin de rendre au vrai seul Dieu le vrai culte. Il est établi aussi comme médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais tout spécialement pour offrir des prières et des sacrifices. Il est surtout et essentiellement l'homme du Saint-Sacrifice. Il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de prêtre sans le saint sacrifice de la messe. L'apôtre saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, le dit d'une façon très claire. Car tout pontife pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices, munere sacrificia, pour le péché. Il est établi afin qu'il offre des dons et des sacrifices. Et après avoir montré que le prêtre doit compatir au pécheur, c'est-à-dire qu'il doit avoir des sentiments, des compassions, et des miséricordes vis-à-vis des pécheurs, car lui-même est revêtu de faiblesse, l'apôtre insiste. C'est pour cela qu'il doit offrir, pour lui-même aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et il m'est simple que nous réalisons cela d'une triple façon. Cela, ça veut dire tout d'abord, que nous devons faire de la Sainte Messe le centre, le cœur de notre vie spirituelle, de notre vie sacerdotale, de notre vie. Et que c'est de la messe, de la Sainte Messe et de la célébration de la Sainte Messe que nous avons puissé tirer toutes les grâces des sanctifications personnelles et des sanctifications des fidèles. C'est-à-dire aussi le principal moyen d'apostolat pour nous, c'est la Sainte Messe. C'est bien ça qui nous a transmis Mgr Lefebvre. Ensuite, il faut que nous accomplissions ces tâches des médiateurs par la prière. Il y a une médiation du prêtre par la prière, aussi bien publique que privée. Bien sûr, la liturgie, c'est la éclair, mais aussi la vie des prières personnelles, privées. Il est ordonné à une médiation entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Autrement dit, c'est une prière des demandes, d'intercession, des médiations, des réparations, d'expiations. Surtout des propitiations. Notre Seigneur lui-même a dit aux apôtres, dans l'évangile de Saint Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et notre Seigneur ajoute, et afin que tous ceux que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Donc il y a quand même un office d'intermédiaire par la prière, puissant, office, fonction du prêtre, semblable à celle de Moïse, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand il a obtenu le pardon du peuple par sa prière, ou quand il a obtenu la victoire dans la bataille, dans la messure, où il était en prière pour le peuple. Pouvoir semblable à celui d'Élie, d'ouvrir ou de fermer le ciel, les grâces du ciel. Et c'est notre Seigneur lui-même qui nous a donné l'exemple. Mgr Lefebvre nous parlait de notre Seigneur comme les grands priants. C'est le modèle de prière sacerdotale par excellence. Et la prière sacerdotale par excellence, c'est la Sainte Messe, encore. Donc c'est bien l'exemple que nous devons suivre de notre Seigneur, cette médiation, afin de rendre Dieu propice, pas seulement pour l'Église, pour les chrétiens, pour le corps mystique, mais pour le monde, comme le signale Saint Jean Chrysostome. On est constitué afin de prier pour tout le monde. Et donc c'est la Sainte Messe, c'est le sacrifice de la Messe qui doit être comme le modèle et la forme de la prière sacerdotale. Modèle et forme de la prière sacerdotale. Et nous réalisons dans ces premiers aspects essentiels aussi, en nous conformant à notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime. Prêtre et victime. Il y a donc une identification qui est requise, une conformité croissante dans notre vie sacerdotale. Imitamini quod tractatis, c'est le pontifical romain. Imitez ce que vous traitez. Imitez donc notre Seigneur dans la Sainte Messe. Or, notre Seigneur dans la Sainte Messe, il est le prêtre. Il est l'oblation, il est le sacrifice, il est la victime. Donc il y a une double imitation. Nous devons chercher chaque jour à nous rassembler davantage à notre Seigneur prêtre donc dans sa sainteté, dans la recherche qu'il a fait tout le temps de la gloire de Dieu, tout était ordonné à la gloire du Père, et aussi dans son souci du salut des âmes, dans sa miséricorde. Sainteté, gloire de Dieu, miséricorde. Mais nous devons aussi nous conformer à notre Seigneur, victime, oblation, sacrifice. Or, le sacrifice implique toujours, et surtout l'Holocauste, une destruction. Il y a forcément une destruction, une mort, mystiquement parlant. Et c'est surtout par la messe, et surtout à l'exemple de la messe, et là que nous avons puissé cet esprit qui est le vrai esprit sacerdotal. Et cela, traduit en plus simple, ça veut dire qu'il faut accepter les souffrances, joyeusement, volontiers. Les adversités, les difficultés, les incompréhensions, les misères, enfin, la liste des malheurs de l'homme est très longue. Mais c'est donc assumer ça, l'accepter avec résignation, le souffrir, la croix, c'est la croix. On ne peut pas éviter de sentir la croix comme une croix, sinon ce n'est plus une croix. Mais il s'agit de l'unir donc à notre Seigneur, de l'offrir comme lui, avec lui, pour tous les biens dont nous avons besoin, et pour le bien des âmes, et pour le bien de la Sainte Église. Je pense que c'est là le sommet de la vie sacerdotale. C'est la fleur, ou le fruit plutôt. Le deuxième élément essentiel au sacerdoce, c'est la prédication de la vérité. Prédication de la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité même. Je suis la vérité. Et il est venu en ce monde afin de rendre témoignage de la vérité, comme il l'a dit devant Caïphas. Et la Sainte Église catholique, elle est la colonne et le soutien de la vérité. Il s'ensuit donc que c'est une tâche essentielle du prêtre que de prêcher la vérité. Le prêtre doit donc s'y préparer. Il doit être, ou il doit se rendre capable d'enseigner la vérité. Et il doit se consacrer à la prédication. Pour saint Paul, être apôtre, c'est essentiellement prêcher, enseigner, c'est être un docteur, être un messager, un héros qui proclame toujours la parole de Dieu, ce sont ses propres mots, la parole de Dieu, la parole des vérités, les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole, les paroles de la foi, la saine doctrine. Et c'est bien l'exemple qui nous a donné notre Seigneur. Sa vie publique, c'est une vie des prédications, d'enseignement, des révélations de la vérité aux âmes. Et c'est même son commandement, aller et enseigner toutes les créatures, c'est-à-dire tous les hommes, tous les hommes. Et cette prédication doit avoir, premièrement, doit être d'abord fidèle. Ce qui est requis, donc, dans l'exercice de ses devoirs, c'est d'abord la fidélité. Ce qu'on demande au ministre, c'est qu'il soit fidèle. Un ministre doit être fidèle à son ministère, à ce qu'on lui demande de transmettre. Et être fidèle, ça veut dire d'abord prêcher l'intégrité de la doctrine. Et ensuite, prêcher, enseigner cette doctrine dans toute sa pureté. Donc, vous voyez, toute la foi, rien que la foi. On ne peut rien ajouter, rien retrancher. Et cette prédication intégrale, donc, et pure, doit être nécessairement celle de la tradition. Il doit prêcher ses dons, l'enseignement de la tradition. Selon la prédication traditionnelle, qui est le critère et le norme de la foi, le principal et premier des critères de la foi. C'est ainsi que saint Paul les donne. Nous ne sommes pas comme beaucoup qui frélatent, qui adultèrent la parole des dieux. Mais c'est en toute pureté, comme de la part de Dieu, devant Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Donc, il est fier, justement, de ne pas adultérer la foi. Et il dit aussi à Timothée, « Aie comme modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et la charité du Christ. » Dans la foi et la charité du Christ. Donc, l'enseignement pur, parfait. Et il ajoute, « Garde le précis de poser la foi par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Donc le prêtre y reçoit le Saint-Esprit, spécialement dans le sacerdoce, afin de garder cet enseignement, cette tradition, et afin de l'enseigner, de le prêcher. Et c'est bien là les critères de catholicité. Rappelez-vous les paroles de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Si quelqu'un, fût-ce moi-même ou un ange du ciel, donc si n'importe qui, soit un prêtre, un évêque, un cardinal, un pape, vous annonce un évangile différent à celui que nous vous avons annoncé, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le critère de la foi catholique et de la prédication du prêtre est la tradition, la conformité avec la tradition de l'Église catholique. Et nous en faisons toujours appel à cela. Et c'est cela qui fait notre force. Nous ne faisons pas un magistère au-dessus du magistère du pape. Nous faisons appel au magistère des papes et à l'enseignement constant, à la tradition de l'Église catholique, qui est au-dessus de nous et qui est au-dessus du pape. Et ensuite, le prêtre doit aussi prêcher et enseigner avec autorité, avec force, qualité essentielle de la prédication. Ça ne veut pas dire, évidemment, violence ni agressivité. Ça veut dire force, être fort. Saint Thomas dit bien que le prêtre doit prêcher, enseigner avec autorité, parce qu'il est l'instrument et le ministre de Dieu. Et donc, il a l'autorité, il est revêtu de l'autorité de Dieu en cet office. Et alors, il doit non seulement enseigner la doctrine, il doit non seulement exhorter les fidèles, les exhorter au bien, à la pratique du bien, mais il doit aussi corriger les fautes et les déviations, que ce soit en dénonçant le mal ou en blâmant les fautifs. Et si c'est une question de foi, une question doctrinale, il est obligé de faire une réfutation solide. Et saint Paul dit capable de confondre, de convaincre ou confondre les contradicteurs, de les convaincre ou de les faire taire, les contradicteurs. Voyez, il dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprend avec toute ton autorité. dit ces choses, exhorte et répand avec toute autorité. Et il lui dit aussi que le prêtre doit être fortement attaché aux paroles authentiques telles qu'elles ont été enseignées afin d'être capable d'enseigner la saine doctrine et de confondre les contradicteurs de la foi. Les paroles de saint Paul à Tite. Donc il est évident, il est inhérent à cette obligation de prêcher que de défendre les fidèles de toute contamination doctrinale. Les prêtres doivent lutter contre les erreurs et contre le faux docteur, contre les hérésies et contre les hérétiques. Car il est gardien des vérités des foi, première chose, mais il est aussi gardien du bien des âmes, dont le premier, c'est justement cette vérité en eux, la foi catholique. Et saint Paul est très formel à ce sujet. Rappelez-vous, « Je t'assure, dit-il à Timothée, devant Dieu et devant notre Seigneur Jésus-Christ, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, exhorte, convainc, reprend en toute longanimité et doctrine. » Ça veut pas dire avec patience. C'est bien sûr qu'il faut de la patience vis-à-vis des fidèles ou des fautifs pour les corriger. Mais il ne parle pas de ça. Il parle qu'il faut le faire avec patience parce que c'est dur. C'est une souffrance. C'est un combat. Et il annonce, c'est son testament spirituel, c'est le testament spirituel de saint Paul, la dernière des choses qu'il écrit. Et il rappelle qu'il y aura des temps où les hommes se détourneront, les catholiques même, se détourneront de la vérité et tourneront leurs oreilles vers des fables. Et c'est là-dedans qu'il doit être vigilant, endure la souffrance, remplis ton ministère, fais œuvre d'évangéliste. Donc c'est bien un devoir que cette défense est de la foi et des âmes. Et donc on doit dénoncer les erreurs, les hérésies, mais aussi les fauteurs d'erreurs et des hérésies. Et cela, évidemment, suppose de la force. Dans la mesure où le combat, la crise dure, c'est surtout notre patience et notre force qui sont mises à l'épreuve. C'est pour ça que saint Paul dit à Timothée, « Et toi, homme de Dieu, combats le bon combat de la foi. » Combat, le beau combat de la foi. C'est un beau combat pour saint Paul, ce n'est pas un mauvais combat. Hein. Un beau combat. Mais alors il faut se battre, il faut lutter. Et pour cela, il faut que nous soyons forts dans la foi. Et saint Paul rappelle à Timothée que par l'imposition des mains, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, c'est-à-dire des craintes, mais un esprit de force, de charité et de sagesse. Mais il dit d'abord de force. Le troisième élément essentiel, c'est que le sacerdoce est tout ordonné à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ordonné à faire régner notre Seigneur. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est le Christ Jésus. Encore des paroles de saint Paul. Autrement dit, on ne peut pas chercher à bâtir cet édifice mystique qui est l'Église catholique en dehors du seul fondement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui bâtit sur un autre fondement, il bâtit un édifice purement humain. Et comme nous le voyons aujourd'hui, humaniste. Donc tout d'abord, le prêtre, il doit tout fonder dans son sacerdoce, dans sa vie, dans son apostolat, sur notre Seigneur Jésus-Christ comme sur la base. Mais en même temps, notre Seigneur doit être la fin de tous ses efforts. Car nous sommes constitués afin de omnia instaurare in Cristo. Tout restaurer dans le Christ. Tout. Tout restaurer, tout instaurer, tout réunir, comme dit les Grecs, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la fin de l'apostolat, la fin du sacerdoce, la fin de la Sainte Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de tout fonder sur notre Seigneur Jésus-Christ, tout inspiré de notre Seigneur. Le prêtre, il ne peut pas savoir d'autres désirs, d'autres volontés que de consacrer sa vie, tous ses efforts, tout son travail, à faire que notre Seigneur Jésus-Christ soit tout, en tout et en tous. Je voulais dire un petit peu à la façon des saint Augustin. Notre Seigneur, il faut qu'il soit tout, en tout et en tous. Mais il faut que ce soit tout notre Seigneur. Tout notre Seigneur. Sa doctrine, son sacerdoce, sa grâce, son sacrifice, sa royauté, son Église, sa très sainte mère, tout notre Seigneur. Ensuite, il faut que ce soit notre Seigneur pour tous. Pour tous. Justement, il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions nous sauver. Et donc, c'est en même temps un don et c'est en même temps une exigence dans notre Seigneur pour tous, pas seulement pour les catholiques et pour les autres qui pratiquent bien leur culte. Eh bien non, c'est notre Seigneur pour tous. Et ensuite, il faut tout ordonner à notre Seigneur. Tout pour notre Seigneur. Tout pour notre Seigneur. Saint Paul, il est clair. Tout est à vous. Vous, vous êtes au Christ. Le Christ à Dieu. Voilà la volonté de Dieu, du Père. C'est que tout soit ramené à Dieu, à lui-même, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, prêtres, nous ne faisons que coopérer à tout ramener vers Dieu par le Christ. À tout réunir dans le Christ. Et c'est pour cela que Mgr Lefebvre résumait souvent notre position dans ses paroles de saint Paul, « Oportetilum regnare », il faut qu'il règne. Oui, il faut qu'il règne. Il faut que notre Seigneur règne. Et le sacerdoce, c'est une œuvre de christianisation. Il est office totalement ordonné à christianiser et à établir le règne de notre Seigneur dans toute son étendue. Aussi bien sur les individus que sur les institutions et les sociétés. Aussi bien l'un que l'autre. Évidemment, in quantum possumus, dans la mesure où nous les pouvons aujourd'hui. Mais donc nous sommes pour cette royauté. Que ce soit vis-à-vis des individus, vis-à-vis des sociétés. Et nous travaillons pour cela. Et c'est pourquoi nous sommes pour la confessionnalité d'État, c'est une conséquence. Nous sommes pour la royauté sociale de notre Seigneur, et donc pour la confessionnalité d'État. Et ce n'est pas une question simplement politique. Ce n'est pas une question de possibilisme. Est-il possible ou pas possible? Enfin, c'est une question de foi. Oportet-il un regnare? Déjà, Saint Grégoire le Grand le disait, il y a des hérétiques qui nient la divinité de notre Seigneur, d'autres qui nient l'humanité de notre Seigneur, et d'autres hérétiques qui nient la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hérétiques. Alors, vous voyez, chers frères, cette... Cette simple description du sacerdoce dans ses éléments essentiels met en évidence combien Mgr Lefebvre était fidèle à nous transmettre le vrai sacerdoce catholique. Et cela met en évidence aussi la dérive à laquelle nous assistons dans les autorités ecclésiastiques de l'Église. Car il y a une radicale opposition par rapport à tout ce que je viens de dire. Et c'est là, nous les constatons même aujourd'hui. Même aujourd'hui, prenez par exemple le voyage du Saint-Père aux États-Unis. C'est un exemple, pour ainsi dire, typique. Voyez, il y a toujours sous-jacent, c'est sous-jacent, évidemment. Et donc cela s'applique avec des degrés différents selon les personnes et selon les circonstances. Nous ne disons qu'il ne prêche que l'erreur, qu'il prêche toujours l'erreur. Nous ne disons pas cela. Mais si on dégage les principes sous-jacents, eh bien nous trouvons justement cet esprit naturaliste, oui, humaniste, qui n'est pas proprement parlé surnaturel, mais plutôt humain, vie humaine, où l'homme est le centre un peu de tout. C'est une prédication qui favorise la liberté des consciences et la liberté religieuse. C'est justement là, le contraire à la christianisation, tout ramener au Christ. Eh bien non, tout est indépendant, l'homme est autonome, que ce soit dans sa conscience ou que ce soit dans sa vie sociale, dans la société. Vous voyez, ils font une œuvre de déchristianisation, diamétralement opposée à ces règnes de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils le veuillent ou non. Pourquoi ? Parce qu'ils adhèrent à des principes libéraux modernistes, comme l'Église l'a dénoncé depuis deux siècles. Ils n'ont qu'à lire les encycliques des papes précédents. Ensuite, on ne prêche plus la vérité, on est en quête de la vérité. Alors, le principal moyen d'apostolat, c'est les dialogues. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vocation du prêtre qui doit prêcher et prêcher la vérité, enseigner, et selon la tradition. Et nous voyons comment ce qui est vraiment, ce qui était, ce qui est la chair de la vérité et des sagesses, elle devient, dans les meilleurs des cas, une chair de confusion, et dans les pires des cas, une chair d'erreur. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est à cela que nous assistons. C'est à cela. Le sacrifice de la messe, il est absolument diminué, estompé, obscurci, au point qu'il devient même un obstacle à la foi, à la grâce de notre Seigneur, au vrai esprit catholique et chrétien qui est fondé sur la croix, sur le sacrifice de la croix. C'est terrible. L'Écriture dit, parlant des enfants d'Élie, que leur péché était très grave, car ils éloignaient les hommes du sacrifice. Leur péché était grave parce qu'ils ont été condamnés par Dieu. Ils sont morts à cause de cela, de leur péché. Et cela, en tout cas, montre l'importance et la nécessité des sacres. Car si nous avons fait cet acte de sacre, c'est justement pour la survie du sacerdoce catholique. Donc aujourd'hui, nous revendiquons les sacres. Nous les revendiquons. Nous revendiquons cet acte, mais non pas comme s'il était une sorte de rébellion contre l'autorité ou contre l'autorité du pape. C'est-à-dire, nous ne revendiquons pas cet acte dans son apparente désobéissance, mais par contre, nous le revendiquons dans sa résistance réelle, dans la mesure où nous avons posé cet acte simplement afin de sauvegarder le sacerdoce catholique. Et qui dit sauvegarder les sacerdoces, dit sauvegarder la foi catholique et l'Église catholique. Et donc, nous revendiquons aussi la figure de Son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est dans ces contextes que sa figure émerge. C'est dans ces contextes que sa figure émerge avec la taille d'un géant, car Monseigneur a été quand même le principal sauveur de la tradition. Et souvent on nous dit, vous êtes lefebvriste. Et nous disons toujours, nous on n'est pas lefebvriste, on est catholique. Mais j'ai tiendé quand même que nous sommes des disciples de Mgr Lefebvre. Et nous en sommes très fiers, très fiers. Car il ne faut pas toujours rentrer dans la logique et la sémantique des ennemis. Bien sûr, lefebvriste, c'est méprisant. Ça veut dire que nous serions catholiques parce que lefebvriste. Eh bien non. C'est parce que nous sommes catholiques et que Mgr Lefebvre était très catholique que nous sommes des disciples de Mgr Lefebvre. Et à l'inverse, aujourd'hui, les gens croient parce qu'ils obéissent. Ils n'obéissent pas parce qu'ils croient. Ce n'est pas d'abord la foi surnaturelle, c'est d'abord l'obéissance. Vous êtes catholique si vous obéissez. Non, si vous croyez. Or, l'obéissance est une conséquence de la foi. Et donc, si nous avons adhéré à cet homme, sauveur de la tradition, c'est parce qu'il était vraiment catholique. Mais ceci dit, cette précision dite, eh bien, nous revendiquons sa figure. Et nous sommes très heureux d'avoir partagé ces combats, et nous serions très heureux encore de partager, de continuer ces combats, et de partager les souffrances, les peines, les adversités, et si vous voulez, les déclarations et même les condamnations dont il a souffert. Nous n'avons pas honte de l'Évangile de notre Seigneur, nous n'avons pas honte de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas honte de la foi catholique de toujours, nous n'avons pas honte de l'Église catholique de toujours. Et par conséquent, nous ne rougissons pas de Mgr Lefebvre. Et cela m'amène à vous parler rapidement de la situation actuelle. Vous avez peut-être entendu dire, par-ci par-là, que nous avions reçu un ultimatum de la part de Rome, de la part du cardinal Castrillon. Moi, je pense que c'est trop dire. Un ultimatum, c'est trop dire. Il y a évidemment une volonté de nous émouvoir, de nous effrayer un peu, nous mettre un peu de pression, nous presser dans l'essence d'un accord purement pratique qui a été toujours la proposition de son éminence. Alors évidemment, vous connaissez déjà notre pensée, cette voix est une voix morte. Et puisque c'est là, pour nous, c'est la voix de la mort. Et donc, il n'est pas question de la suivre. Nous ne pouvons pas nous engager à trahir la confession publique de la foi. Il n'est pas question. C'est impossible. Et nous ne pouvons pas, voulant donc garder la tradition et défier cet édifice, ce bâtiment mystique qui est l'Église, nous embrocher dans une entreprise de démolition. Impossible. Vous réfléchirez sur tout ce que nous avons déjà dit, c'est impossible. Alors évidemment, notre réponse va plutôt dans le sens de ce que nous avons déjà demandé, ce que nous demandons depuis longtemps. Ce sont les étapes avec les préalables et qui aboutiraient éventuellement à une discussion, à une confrontation théologique, plus que théologique encore doctrinale, plus que doctrinale encore du magistère, et plus que du magistère de foi. Mais c'est la seule voie que nous sommes prêts à accepter, c'est la seule voie que nous demandons. Et évidemment, la réponse de la fraternité va dans ce sens-là et elle ira dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui nous dépare le proche avenir? Moi, je ne sais pas. Je pense que le plus probablement, ceci aboutira à une pause, stagnation de nos contacts avec Rome. Moins probablement, sinon, à une déclaration nouvelle contre nous. Et moins probable encore, ça aboutira peut-être au retrait du décret des excommunications et ensuite à une discussion sur la foi catholique. Discussion pour ainsi dire, évidemment. Voilà, je vous les ai donnés dans l'ordre décroissant d'après moi. C'est une conjecture que je fais moi-même à mes frères. Pour terminer, je vous rappelle, chers ordinants et chers confrères, les paroles de notre Seigneur, avant de monter au ciel, qui me semblent contenir un passage beau, si beau, qui contient comme la quintessence de l'Évangile. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est le Christ roi universel qui parle, le maître de l'histoire et de l'Église. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, allez donc, et enseignez tous les hommes, toutes les nations. C'est bien le Christ prêtre, docteur, docteur de vérité. C'est le Christ vérité qui nous l'est dit. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien le Christ vie. C'est le Christ prêtre qui communique la grâce, qui nous donne cet ordre, de les convertir et ensuite leur donner la grâce. Leur apprenant à garder tous ceux que je vous ai commandés, tous ceux que je vous ai commandé, absolument tout. Et c'est bien le Christ, donc, législateur, qui établit l'ordre moral même, qui nous demande d'enseigner cela. Ceux que croiront et se baptiseront, se sauveront. Et ceux qui ne croiront pas, ils se condamneront, ils seront condamnés. C'est le Christ juge et rémunérateur qui nous l'annonce. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. C'est le Christ Sauveur, Rédempteur, Christ, tête de l'Église, c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui nous annonce son secours dans sa toute-puissance et dans sa miséricorde. Alors, nous n'avons rien à craindre. Il a dit lui-même aux apôtres, « Ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. » Et notre Seigneur, il ne parlait pas seulement du monde mondain. Le contexte montre bien que dans « J'ai vaincu le monde », notre Seigneur inclut les autorités ecclésiastiques de l'époque, puisqu'il parlait peu avant des pharisiens et des sadducéens. Autrement dit, notre Seigneur a vaincu tous ses ennemis. Et nous, nous sommes au service de ces six puissants seigneurs, roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors nous n'avons rien à craindre, et la providence va nous donner pour l'avenir ce qui nous convient, comme toujours. Parfois c'est la souffrance, l'épreuve, parfois c'est l'accalmie, c'est une petite bataille gagnée. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas où l'histoire, le monde va aboutir, l'Église elle-même et le monde. À quoi Dieu nous prépare-t-il? Nous ne le savons pas. Mais que ce soit donc dans la souffrance, dans le combat, dans la joie, dans la victoire, nous sommes toujours également assurés. Car notre espérance est bien fondée en Dieu, dans sa providence et dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous prions spécialement aussi aujourd'hui notre Sainte Vierge Marie et tout particulièrement l'Immaculée, la toute pure, car c'est bien elle qui est le chemin pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ, chemin assuré, pour aller au Christ, pour vivre de la vie du Christ, mais c'est aussi l'Immaculée qui a reçu les promesses de la victoire. Ipsa conteret, elle t'écrasera la tête. La victoire a commencé déjà par Marie, la victoire finale viendra aussi par l'entremise de l'Immaculée, par le triomphe du cœur immaculé et douloureux de Marie. Alors, ayons cette confiance et soyons courageux dans notre sacerdoce, dans notre ministère et dans l'accomplissement chaque jour mieux des exigences de notre sacerdoce catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers séminaristes, bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Au début du XXe siècle, en 1903, Saint Pidis nous dit ceci. Nous éprouvons une sorte de terreur lorsque nous considérons les dangers qui menacent la société humaine. C'est à cause de ces dangers, la société humaine, c'est bien sûr toute la société, et dans cette société humaine, il y a la famille, que déjà Léon XIII voulait que toute famille catholique se consacre à la Sainte Famille. Et que, peu après Saint Pie X, Benoît XV a voulu que cette fête soit étendue à toute l'Église. Pourquoi un Saint Pie X a pu dire une telle phrase? Et qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Quand on éprouve un malaise, quand on a mal quelque part, en connaître la cause. Et déjà, le simple fait de savoir la cause du mal, ça nous apaise. Ça nous permet surtout aussi de prendre les bons remèdes. Ce que nous allons vous dire, vous le savez, vous le connaissez, nous le rabâchons. Mais néanmoins, il y a certaines choses qu'il faut répéter. Oui, la famille, tout d'abord la famille catholique, mais la famille tout court, dans le monde d'aujourd'hui, est en danger. Et ces paroles de Saint Pie X qu'il attribue un regard sur la société humaine, nous pouvons la répéter, cette phrase, en regardant la famille, les dangers qui menacent la famille. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XIXe siècle, il y a une volonté arrêtée des ennemis de l'Église, très précisément la haute vente, cette sorte de franc-maçonnerie qui s'occupe de démolir l'Église. Il y a un plan arrêté pour attaquer l'Église, pour démolir l'Église, d'attaquer la famille. Parce que ces ennemis se rendent bien compte que ce qui porte, ce qui transporte à travers les âges, l'attitude catholique, l'esprit catholique, c'est la famille. Il y a une cellule dans la société chrétienne, dans la société tout court. L'homme, c'est un homme social, c'est un homme qui vit en société. Eh bien, la première cellule de la société, celle où l'enfant voit le jour, où il se développe, c'est cette société qui, si elle est saine, eh bien, va transmettre dès les débuts les bons principes, les bonnes attitudes, le bon esprit, l'esprit chrétien. Et donc l'ennemi, pour détruire finalement l'Église, s'en prend à la famille. Et leur plan est impressionnant. C'est à peu près au milieu du XIXe siècle, bien 50 ans avant Saint Pie X, que ce plan est mis en branle. Et ce plan n'est pas simple, c'est un plan très très complexe, et qu'il est intéressant de connaître pour réagir correctement. Si la société, si la famille est si importante pour la société et encore pour l'Église, donc comment vont s'y prendre les ennemis pour désintégrer, pour exploser cet organisme si nécessaire, si naturel à la vie humaine? La démolir totalement, ça n'est pas possible, parce que c'est tellement profond dans la nature que de soi, on va la retrouver. La nature va rechercher cet organisme de la famille. Eh bien, on voit que dans justement cette société, la petite société de la famille, il y a divers rôles, divers organes. Il y a le père, qui a le rôle de chef de famille. C'est lui qui doit conduire la famille, c'est lui qui doit pourvoir à la sustentation de la famille. Il y a la mère. La mère qui a un rôle plus interne, on l'appelle la reine du foyer, qui elle sera tout près des enfants et qui leur communiquera encore beaucoup plus, avec beaucoup plus grande proximité, les premières connaissances. Et puis, bien sûr, il y a les enfants. Dans ce plan décrit par la Haute Vente et déjà mis en branle au XIXe siècle, et bien sûr le XXe continue de plus belle. Ce qu'il faut voir au XXe siècle, c'est que ce qu'on appelle les socialistes seront encore beaucoup plus efficaces pour faire entrer dans les lois ce programme de démolition de la société. À ce niveau-là, lorsqu'on parle au XIXe siècle de ses ennemis, on parlera du libéralisme. Mais on voit très bien qu'au XXe siècle, ceux qui s'appellent socialistes, communistes, poursuivent exactement le même plan. Et qu'à ce niveau-là, ça ne vaut même pas la peine de faire une différence entre le libéralisme et le socialisme. La différence, c'est que le socialisme est un peu plus efficace dans la démolition. Au niveau du Père, dans ce texte de la Haute Vente, on dit qu'il faut sortir le Père de la famille. Il faut l'occuper ailleurs. De telle sorte qu'il n'exerce plus son rôle. Encore plus impressionnant, Lénine. Lénine expliquera qu'il faut s'attaquer, qu'il faut démolir le père, qu'il faut démolir la paternité. Pourquoi ? Pour empêcher la relation normale de l'homme avec Dieu. Nous appelons Dieu Père. Si l'enfant, si l'homme ne sait plus ce que c'est que le Père, quand on lui dit Dieu est Père, eh bien on lui parle du chinois. Évidemment, il aura quelques idées, mais il n'aura plus l'idée juste. Eh bien déjà, Lénine ose dire cela. Ils ont comme cela pour plan, il faut démolir la paternité, il ne faut plus qu'il y ait de père dans la famille. Et ce dont on se rend compte, mes bien chers frères, aujourd'hui, et ce n'est pas, c'est pas que nous, les simples sociologues, ceux qui s'occupent tout simplement de l'ordre naturel, constatent, vous diront que aujourd'hui, effectivement, peut-être le point le plus gravement touché dans la famille d'aujourd'hui, eh bien, c'est le père. On a diminué son rôle, on l'a même dénaturé, et cette paternité ne s'exerce plus. Au niveau de la mère, le plan de cette haute vente est aussi très intéressant. Ces francs-maçons nous disent, c'est leur constatation, que la personne clé qui transmet et donc qui conserve la tradition et qui les transmet aux enfants, c'est la mère. Dans cette description, on voit très bien qu'on considère que la mère est beaucoup plus, si on peut dire, conservatrice que le père. Et alors le plan consiste, c'est leur terme, à corrompre la femme. Et cette corruption, eh bien, ce sera l'attrait du monde, ce sera aussi la faire sortir, l'occuper, produire des situations de société telles que père et mère doivent travailler, de nouveau empêcher, diminuer cette relation normale, naturelle de la maman avec ses enfants. Aujourd'hui, on en est là. J'ai entendu tout récemment, je crois que c'est à Neuchâtel, les petits enfants à 4 ans sont obligés d'être mis en crèche. En tout cas, on les force, on pousse. Dans d'autres pays, c'est déjà même des lois obligatoires. On enlève de l'influence de la maman les enfants. Et bien sûr, au niveau des enfants, alors là, c'est la corruption en grand, c'est le charme du monde, c'est tous ces attraits, toutes les facilités du monde d'aujourd'hui. C'est aussi, bien sûr, bien évidemment, l'esprit d'indépendance. Peut-être qu'ici, en Valais, il y a encore suffisamment d'éléments qui ne permettent pas de voir dans tous ses excès la situation actuelle de la famille. Mais si vous allez aux États-Unis, par exemple, et vous constaterez que le repas de famille, ça n'existe quasiment plus. La famille est complètement dispersée, mais à un point tel qu'ils n'arrivent même plus à manger ensemble. Alors chacun s'en va au frigo, ramasse un quelque chose, le met dans le micro-ondes, et puis voilà, chacun pour soi. Chacun sa télévision, chacun dans son coin. Il y a encore une unité par le toit, il y a encore un toit, oui, un toit commun. C'est grave. Et tout ce que nous vous disons là, pour la plupart des choses, des éléments, ce sont des éléments tout simplement de l'ordre naturel. On n'a même pas parlé encore de la loi chrétienne. Parce que ses ennemis se rendent bien compte que si on va à ce niveau-là, on démolira tout. On démolira et la société chrétienne et la société tout court. Et comme je vous disais, les socialistes au XXe siècle, entre autres, se sont appliqués et s'appliquent encore à multiplier les lois qui démolissent la famille de tous les côtés. Bien sûr, le divorce. On pense qu'en France, maintenant, on en est à faire passer une loi où le divorce est ratifié par simplement mutuel consentement. On n'a même plus besoin de passer devant le juge. Les deux se mettent d'accord, voilà, c'est fini. Et on n'en parle plus. La stabilité de la famille, l'indissolubilité du mariage, on n'en parle plus. Et après, quand on arrive aux aberrations de ces espèces de partenariats invraisemblables, où on confie encore des enfants, c'est chose complètement dénaturée, contre nature. Ça va nous faire des monstres. C'est évident. Ces pauvres enfants n'auront jamais la capacité d'avoir une relation normale avec les autres. Ce sont des choses très très graves. Et ça, mes bien chers frères, c'est le monde dans lequel nous vivons et qui continue dans cette ligne. C'est pour cela que nous disons, la famille est vraiment en danger. Et on ne peut pas simplement vivre comme si de rien n'était. Ça n'est pas possible. Il faut prendre des mesures de précaution. Elles sont assez simples. Ce n'est pas très très compliqué. Mais connaissant les lignes d'attaque de l'ennemi, Eh bien, il faut précisément renforcer ces points. Il faut vraiment que le Père fasse attention à avoir de vraies, fréquentes relations avec ses enfants. Il ne faut pas qu'il soit celui qui arrive, je veux dire, crevé du boulot et qui n'ait plus de temps pour ses enfants. Les enfants ont besoin de lui parler. Il faut ce contact. Ils ont besoin du Père. La même chose pour la mère, évidemment. Il est vrai que certaines circonstances obligent les mères à aller travailler, bien qu'on essaie de diminuer ça au maximum, qu'on essaie vraiment de donner le temps qu'il faut aux enfants. Récemment, j'ai pu voir un docteur qui s'occupe de drogués. Eh bien, il fait ça en Italie, il s'occupe de désintoxiquer avec pas mal de succès. Il arrive à peu près à 80% de succès. Et lui de dire qu'il considère que la raison première, le pourquoi ses enfants se droguent, pourquoi est-ce qu'ils se perdent dans cette drogue, la première cause, c'est la famille. C'est précisément ce manque de relation entre les enfants et leurs parents. Ils n'ont plus à qui parler, ils vont n'importe où, ils forment des groupes et c'est parti. Et bien évidemment, pour les enfants, et bien qu'ils soient dans cette relation juste avec leurs parents. C'est évident aussi, mes bien chers frères, que d'en rester à des mesures de l'ordre naturel pour se protéger, pour se défendre contre une telle attaque, c'est une illusion. Nous avons besoin de la grâce. Mais tout en faisant cela, il faut que ces relations soient faites le plus surnaturellement possible. Autrement dit, si Léon XIII a demandé que la famille soit consacrée à la Sainte Famille. Si, pendant le XXe siècle, on a vu tous ces magnifiques mouvements, ces invitations, par exemple, à l'intronisation du Sacré-Cœur, à la consécration de la famille, c'est toujours dans la même perspective. Cette invitation des papes à dire, mais dites le rosaire en famille. L'Église va si loin qu'elle attribue, qu'elle accorde chaque jour une indulgence plénière aux membres de la famille qui disent le chapelet en famille. Elle y tient. Elle sait quel pouvoir il y a dans cette prière. Et il faut introduire ces éléments. Ça permettra à la famille non seulement de rester famille, mais d'être une famille chrétienne. C'est Dieu qui a voulu que ce contrat naturel, qui fait la famille, eh bien, devient un sacrement. Et alors la famille, ça devient quelque chose de sacré. Dieu attache, lie la grâce qui va sanctifier tous les membres de la famille à ce sacrement de mariage. Il faut en vivre. Il faut vraiment faire venir le bon Dieu dans la famille. Il faut que Dieu soit part de notre famille. Et les saints, évidemment, pas simplement quelqu'un qu'on va visiter le dimanche pour remplir l'obligation dominicale. Que ce soit beaucoup plus. On voit dans l'intronisation, dans ces consécrations, on offre toute la vie de la famille à Dieu. On lui présente les projets, on lui demande de les bénir. C'est très beau tout cela. Et c'est de l'ordre du réalisable. Le tout, c'est de faire l'effort, bien de le faire, c'est tout. Il faut y penser. Le chapelet, ça semble des fois un peu difficile, pénible. Oh, Quand on voit combien d'heures les gens sont capables de passer devant leur télévision, la petite demi-heure ou 20 minutes du chapelet, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, on voit les papes d'insister, de nous dire que ce chapelet, c'est le remède à tous les maux, un remède universel. Et on peut le constater que là où cette prière est dite, eh bien, la famille est protégée. Il y a une bénédiction spéciale du bon Dieu, une protection. C'est vrai, il faut être bien conscient de l'époque dans laquelle nous vivons, qui est très difficile. Mais oui, ça ne sert à rien de paniquer. Si Dieu permet une telle situation, en même temps, il nous donne les grâces pour résister, pour passer à travers cette épreuve. Mais il est vrai qu'en temps de guerre, on n'a pas exactement le même comportement qu'en temps de paix. Si vous vous promenez dans une rue et que vous êtes en paix, ou si vous promenez dans la même rue alors que vous savez qu'il y a des tireurs d'élite sur les toits prêts à vous descendre, je suis sûr que vous n'avez pas le même comportement dans cette rue. Eh bien, il y a des tireurs d'élite qui sont en train de descendre la famille. On n'a pas le droit de l'oublier. Et précisément, les moyens donnés par l'Église sont très simples. Ça n'est pas sorcier. Mais il faut y revenir à ces moyens. Il ne faut pas se laisser entraîner par toutes ces fausses, ces sophismes du monde moderne. Le sacrifice, c'est un des remèdes fondamentaux. Je crois que même chez nous, on fait l'erreur de ne pas demander suffisamment d'efforts, de sacrifices aux enfants. Au nom d'une fausse charité, d'un sentiment d'amour mal appliqué, on comble les enfants de toutes sortes de choses, alors qu'il faudrait les combler de toutes sortes de petits renoncements. Leur demander ces petits efforts pour l'amour du bon Dieu. C'est ça l'esprit chrétien. Et si on ne le fait pas, tout en croyant faire du bien, on fait du mal. Parce que notre volonté, pour être formée, pour grandir dans la vertu, a besoin de l'effort. Elle a besoin de la tribulation. Elle a besoin de se dépasser. Et donc il faut demander, bien sûr, d'une manière graduée, proportionnée, évidemment. Il ne faut pas avoir peur de demander ces efforts et ces sacrifices, ces renoncements. Si l'enfant n'a jamais été habitué à renoncer au monde, comment pourra-t-il se débrouiller tout seul au moment des tentations? Il ne pourra pas. Et c'est là qu'on voit justement l'un des grands dangers du monde moderne qui rend tout facile. Vraiment, il faut faire des efforts. Si on se laisse aller, eh bien on laisse rentrer le mal. Eh bien, demandons en ce jour, demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à Saint Joseph, demandons à l'enfant Jésus, quand on pense que notre Seigneur, Dieu éternel, a voulu cette vie, il a voulu 30 ans sur 33 être dans cette vie de famille. Et là, il a sanctifié, il a mérité pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Demandons-les lui avec beaucoup de confiance et aussi avec de grands désirs de faire en sorte que nos familles soient semblables à la sienne. C'est le modèle que nous donne l'Église. Donc en ce jour, en cette fête, demandons toutes ces grâces avec beaucoup de confiance et aussi de grands désirs. Et ainsi, Oui, ainsi, eh bien, ces enfants deviendront un jour grands et continueront de transmettre tous ces biens qui sont nécessaires pour être sauvés. Que le bon Dieu vraiment nous bénisse, bénisse ces familles. Qu'il aussi, c'est un autre élément avec lequel nous terminons, l'argument le plus fort, un des plus forts que nous ayons dans cette crise de l'Église par rapport à Rome, eh bien, chers frères, eh bien, c'est précisément la famille. C'est vous. Ça vaut plus que toutes les théories. Parce que les théories, Rome, c'est un peu cause toujours. Ça ne les émoie pas beaucoup. Ça ne les émeut pas beaucoup. Et de voir qu'il y a encore des vraies familles catholiques et qui vivent vraiment leur catholicisme, ça les choque. Ça les secoue. Mais ils sont obligés de reconnaître que les fruits sont bons. Et donc, mes bien chers frères, aussi à ce niveau-là, continuez, soyez bien conscients d'un rôle que vous avez à jouer aussi dans cette crise de l'Église. C'est un rôle pour vous et pour le futur de l'Église. Alors demandons bien que le bon Dieu, oui, bénisse la famille catholique, que Notre-Dame la protège avec Saint-Joseph, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.